Dan komen we bij, automatisch bij Benoît Peeters terecht. Hè. Nog steeds één geheel met Schuiten Peeters, het auteursduo van strips als De Duistere Steden, verbonden aan Brussel. Denk aan Brussel, hè. Een van de delen uit Duistere Steden. Naast scenarist is hij meer en meer de biograaf geworden van grootheden, zoals onder meer Jacques Derrida en Paul Valéry. En deze week is hij te gast, woensdag dacht ik, bij Passaporta. Is hij een Jekyll and Hyde van de populaire cultuur en de hoge literatuur en filosoof? Of is er echter ergens een trait d'union? Ik vraag het aan Gudrun de Geijter.
Dag, Koert. Ja, ik vond het zeer fascinerend om iemand de hele tijd met strips of aan strips verbonden te horen en dan ineens, een aantal jaren geleden, de biografie van de Franse filosoof Jacques Derrida door Benoît Peeters, overigens iemand van bij ons, denk ik dan altijd. Ja, hij heeft zo lang in Brussel gewoond, ook al is hij eigenlijk Parijzenaar. Hij heeft ook veel documentaires gemaakt, Benoît Peeters. Dus hij heeft nog veel meer gedaan dan alleen scenarist of scenario schrijven voor strips. Hij heeft een fotoboek gemaakt, onder andere met de Brusselse fotograaf Marie-Françoise Plissard. Hij heeft die onscenering gemaakt voor het Mundaneum. Ik weet niet wie onder jullie dat allemaal al heeft gezien in Namen. Dat is dat grootste project. Ja, je zou kunnen zeggen internet avant la lettre. Internet van de jaren 20 van de vorige eeuw van Paul Otelet. Dus dat heb ik in de tijd ook gezien. En ja, als je een idee wil krijgen van wat hij allemaal heeft gedaan, dan moet je in een bibliotheek eigenlijk op alle verdiepingen en in alle hoekjes gaan kijken. Het is bijna alsof je als bezoeker van de bibliotheek zelf in scène wordt gezet door Benoît Peeters, alsof hij het allemaal ja, zo heeft uitgekiend. Maar laten we het hem zelf eens vragen.
Depuis mon premier livre, mon deuxième roman s'appelle La Bibliothèque de Villers. C'est vrai que le livre est une chose qui m'a toujours occupé sous toutes les formes. J'ai exercé beaucoup de métiers dans le monde du livre. Dans ma jeunesse, j'ai été libraire, je fais de l'édition, je suis auteur dans différents registres et j'aime cette diversité. Il se trouve que j'ai la chance que depuis assez longtemps, depuis plus de 30 ans, écrire des livres est mon métier. Donc il y a des livres que j'ai développés de manière tout à fait personnelle, hors de toute commande, des livres que j'ai fait en collaboration, notamment pour la bande dessinée, et d'autres qui ont été des commandes liées parfois à des projets d'exposition, etc. Donc ça fait un ensemble de livres relativement abondants, peut-être une cinquantaine de volumes maintenant, mais les gens ont quelquefois du mal à imaginer que c'est le même auteur qui a écrit un livre sur Paul Valéry aujourd'hui, ou une biographie de Jacques Derrida, et des scénarios de bande dessinée, des livres sur Hergé, sur le scénario, j'avais fait un petit livre sur Hitchcock, etc. Cette diversité, je la revendique, je n'ai pas du tout l'impression de me disperser, j'ai simplement l'impression d'être fidèle à plusieurs parties de ma personnalité et du monde qui m'intéresse.
Ja, hij begint er zelf al over, maar u had het nog niet genoemd. Hè. Gudrun, de veelzijdigheid, in die veelzijdigheid heeft hij ook nog over Kuifje. Dat is nog iets wat ontbrak. Hij heeft een biografie namelijk van Hergé geschreven.
Ja, en hij is ook nog wel dieper en theoretischer in de technologie binnengedrongen. En aan de kenner van Kuifje wil ik toch eens voorleggen wat er vorige week is gebeurd. Dan is er een plaats van Kuifje voor maar liefst meer dan 2,5 miljoen euro over de toonbank gegaan. Ik wou eens weten wat hij daarvan dacht.
C'est colossal, Hergé en aurait été, mais éberlué, stupéfait. Il aurait été stupéfait de beaucoup de choses qui sont arrivées depuis sa mort, de toute façon. Marshall McLuhan avait une formule très forte. Il disait que quand un médium perd sa centralité, il devient un art ou il meurt. Et nous avons un petit peu cette situation avec la bande dessinée de patrimoine et notamment avec l'œuvre d'Hergé, c'est qu'elle a été centrale, c'est-à-dire c'est une œuvre qui était vivante, qui se faisait sous les yeux de ce public qui attendait le nouvel album, etc. Aujourd'hui, par la volonté d'Hergé, il n'y a pas eu de nouvel album de Tintin depuis très 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 longtemps. Et l'œuvre est présente, mais elle est présente sous une autre forme, elle est présente à travers le musée Hergé, elle est présente à travers ses ventes, elle est présente à travers la collection d'albums anciens dans leur première édition, absolument intouchée, impeccable, ce qui est difficile pour des albums qui étaient destinés en priorité aux enfants, donc qui ont été manipulés, lus et relus. Voilà, donc j'observe ce phénomène avec curiosité, sans jugement moral, je pense que c'est un phénomène, c'est-à-dire que le marché de l'art qui longtemps s'est désintéressé de la bande dessinée, tout d'un coup s'y intéresse, une nouvelle catégorie de collectionneurs s'y intéresse, les cotes restent très inférieures à celles d'artistes contemporains. Il est certain que Hergé, quelle que soit la façon qu'on aura de raconter l'histoire de la bande dessinée dans un siècle ou deux, Hergé en fera partie. Comme on peut dire, Winsor McCay avec Little Nemo en fera partie, etc. Art Spiegelman, il y a des gens dont on sait déjà, sans prendre de paris exagérés sur l'avenir, que ne serait-ce que par la place historique qu'ils ont occupée, le moment où ils ont été là, ils en font une partie. Alors après, la question de la valeur, elle a été très très ironiquement et habilement traitée par Hergé dans plusieurs des aventures de Tintin. Si on relit L'oreille cassée, par exemple, où il y a l'histoire de ce fétiche pour lequel on se bat et on s'entretue sans savoir ce qu'il contient, on peut dire qu'Hergé avait déjà assez bien raconté la folie des collectionneurs et donc, en ce sens-là, il avait pris pas mal d'avance.
Ja, Hergé had het zelf voorspeld in het gebroken oor, maar hij zou er toch éberlué en stom verbaasd over zijn geweest dat het hem kon overkomen, aldus Peters. En we horen hem hier zijn Marshall McLuhan bovenhalen.
Ja, de Canadese mediafilosoof, de man van The Medium is the Message. Bijna alsof hij de decline and fall and resurrection of an artform aan het beschrijven is. Benoît Peters die heeft in Parijs filosofie gestudeerd, onder andere bij Roland Barthes, in een tijd waarin het niet voor de hand lag om strips te bestuderen aan de universiteit.
Ce qui était important, c'était qu'on était dans un lieu transdisciplinaire. Aujourd'hui, ça nous semble naturel, on a par exemple les cultural studies et des choses comme ça. À l'époque, au milieu des années 70, en France, dans l'université, c'était tout à fait étrange. On était du côté de la philosophie, ou de la littérature, ou de l'architecture, etc. Mais on ne pouvait pas établir facilement des ponts d'un domaine à l'autre. Ça semblait quelque chose de bizarre. Et amener un objet venu de la sous-culture, de ce qu'on considérait comme la sous-culture, l'œuvre d'Hergé, dans le monde de réflexion de la pensée moderniste, ça semblait à beaucoup de gens très bizarre. Pas à Roland Barthes, qui était évidemment une de ces personnalités extrêmement ouvertes et accueillantes et généreuses, qui m'a marqué profondément. Et je pense que l'empreinte de Roland Barthes, qui a malheureusement disparu très tôt, alors que je n'avais pas fini mon travail avec lui, il est mort en mars 1980, mais cette empreinte a continué pour moi longtemps après sa mort. Il arrive quelquefois que des choses que quelqu'un vous a dites résonne en vous pleinement avec 10 ou 15 ans de retard quand vous êtes vraiment tout à fait capable de les entendre et qu'elles font écho à votre propre vie. Et il est certain aussi que ce qu'il représente en tant qu'auteur et en tant que curiosité permanente dans la variation des objets d'étude avec toujours la même rigueur, c'est quelque chose qui m'a marqué pour la vie.
Ja, Roland Barthes dus als een grote inspirator, die trouwens volgend jaar 100 jaar geleden zal geboren zijn. En bovendien heeft Benoît Peters ook les gevolgd bij al die anderen daar in de jaren 60 en 70.
On le sait, la pensée française des années 60 et 70 a été un moment tout à fait extraordinaire. Et j'avais la chance, quand j'étais étudiant, d'avoir à quelques centaines de mètres la possibilité d'aller écouter le séminaire de Lacan, celui de Michel Foucault, quelquefois d'aller écouter Jacques Derrida, que j'ai connu quelques années plus tard. Et on ne se rendait peut-être pas compte que ce moment ne serait pas durable. Il y avait une sorte d'excitation de la pensée, de rencontre entre les domaines, de politisation, parfois dans le mauvais sens du terme, mais souvent dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on percevait les enjeux des combats intellectuels. Et tout cela m'a profondément marqué. Quand je suis venu m'installer en Belgique vers la fin de mes études, comme jeune auteur, j'ai eu parfois le sentiment d'avoir perdu quelque chose, de cette effervescence intellectuelle. La Belgique a beaucoup d'autres qualités, et sur le plan artistique, ça a toujours été une scène qui m'a passionné, et il y a un dynamisme, une débrouillardise que j'aime beaucoup en Belgique. Mais sur le plan du débat d'idées, j'ai eu le sentiment de perdre quelque chose, et qu'il n'y avait pas cette habitude, par exemple, de discuter longuement, sans se fâcher, de discuter sans avoir l'impression que ça se transformait en un conflit personnel. C'est quelque chose qui appartient moins, en tout cas du côté francophone, ça appartient beaucoup moins à la culture belge, et j'ai mis quelques années à m'en rendre compte.
Ja, zegt veel. En uitgerekend van een zo moeilijk te begrijpen auteur als Jacques Derrida schrijft Benoît Peters dan een biografie, en daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst even luisteren naar The Adventures of Tintin. The Adventures of Tintin van John Williams. En hij leidde hier zelf een studioorkest. Jacques Derrida, daar hadden we het over. Benoit Peters is ook bevriend geraakt met Derrida.
Wel, is er een paar keer mee op reis geweest zelfs. En voor die biografie heeft hij zich voorgenomen om vooral het leven van die man Jacques Derrida te schetsen. Mm-hmm. Hij heeft van heel veel brieven van Derrida gebruik kunnen maken. Schetst het leven van iemand die van jongs af aan een bijzonder soort van angst koesterde voor het buitengesloten worden. Nu, dat doen wij natuurlijk allemaal, maar dat was bij hem, bij Derrida, gebeurd op zijn college in Algerije, want daar is hij geboren, tijdens het Vichy-regime. Hij mocht niet meer naar school, omdat hij Jood was.
Ja.
En het is ook de band tussen literatuur en filosofie die heel fascinerend was voor Benoit Peters. En natuurlijk ook die specifieke methode van Jacques Derrida die hem aantrok, die je zou ze kunnen noemen in het Engels van close reading.
Quand j'étais très jeune, à la fin de mes études secondaires, j'ai hésité un petit peu entre le monde de la littérature et celui de la philosophie. Et quand je me suis tourné plutôt vers la philosophie pour les études, peut-être pour laisser la littérature à l'abri, la garder comme quelque chose de plus intime et de plus secret, le philosophe qui m'a le plus séduit vers 18-19 ans, c'est Derrida. Et au fond, je me suis rendu compte, en écrivant sa biographie, qu'il était lui aussi dans cette hésitation entre littérature et philosophie, et que la lecture rapprochée qu'il a pratiquée consistait aussi à lire la philosophie comme un texte et à lire les philosophes aussi comme des écrivains. Et si sa pensée, si difficile, m'a parlé très fortement, c'est sans doute parce que cet aspect-là, je le comprenais tout à fait. Par exemple, quand il fait un texte très connu et très important qui s'appelle « La pharmacie de Platon », il lit un dialogue de Platon, le Phèdre, en prenant véritablement au sérieux le texte de Platon, pas en résumant comme les professeurs nous le faisaient à la Sorbonne, les grandes idées de Platon, la conception du bien ou la conception, etc. Non, en prenant Platon comme un texte, en prenant la forme du dialogue au sérieux, c'est-à-dire que ce n'est pas par accident ou par facilité que Platon recourt à la forme du dialogue, en prenant au sérieux les métaphores, les fables, les parenthèses qu'il y avait dans le texte, et effectivement, quelquefois, en ne lisant en une séance de séminaire ou dans un texte, en ne lisant qu'une demi-page de Platon, mais de très près.
Ongelooflijk veelzijdige man, dat hoor je aan alles wat hij vertelt. En het nieuwste boek dat van hem bij Flammarion is uitgekomen, dat gaat over Paul Valéry.
Ja,
Goudron.
En het heet Tenter de vivre, dus pogen te leven. En het is ook niet dat er niet al een biografie van Valéry zou zijn verschenen, maar scenarist en filosoof Benoit Peters volgt daarin zijn eigen pad. En dat gaat eigenlijk over zijn levenslange passie voor deze auteur. Vertrekt van daaruit naar het verlangen om die passie te ontsluiten voor een groot publiek, niet noodzakelijk van specialisten. Mm-hmm. En bovendien is het bijna 70 jaar geleden dat Paul Valéry gestorven is. Dat betekent dat zijn werk volgend jaar rechtenvrij zal zijn. En dus voor heel veel mensen te raadplegen. Mm-hmm. Dat bijvoorbeeld de cahiers die hij heeft geschreven ook te raadplegen zullen zijn. Die cahiers waarin Valéry s'morgens vroeg al probeerde neer te schrijven wat hij zich zat af te vragen, namelijk hoe de geest werkt.
J'ai écrit mon dernier livre sur Paul Valéry, qui est un écrivain qui a eu une gloire immense dans l'entre-deux-guerres, mais qui aujourd'hui, peut-être pour beaucoup de gens, paraît un peu lointain, un peu une figure du passé, un peu grise. Eh bien, je me suis dit, cet auteur que moi je lis depuis l'adolescence avec passion, j'ai envie de à la fois de le raconter, de le décrire, de le faire vivre comme figure, mais aussi de faire sentir pourquoi je le considère comme important. Et donc je ne m'adresse pas à des gens qui sont déjà acquis à Paul Valéry, je m'adresse à des gens qui peuvent être curieux et se dire « c'est un grand nom, peut-être que derrière ce grand nom, il y a quelque chose qui en vaut la peine ». Et ça, c'est une démarche qui m'est assez naturelle et j'aurais la même envie d'amener, par exemple, des gens qui sont des lecteurs de bande dessinée vers un univers comme celui de Paul Valéry, que des gens qui sont des littéraires, des intellectuels, et de leur dire, vous savez, dans la bande dessinée, il y a aujourd'hui une vitalité très grande, une vraie création, et c'est un domaine à part entière, comme le cinéma ou la danse peuvent être des domaines auxquels il faut un jour s'ouvrir, parce que nous ne sommes pas au départ construit pour être ouvert à tous les champs de pensée, de création, pas plus qu'à toutes les personnes, pas plus qu'à tous les pays, à toutes les langues. Et donc, c'est peu à peu, à travers des médiations, que nous avons envie d'approcher un territoire que peut-être nous n'aurions pas approché autrement.
En zal Benoît Peters het daarover hebben nu, volgende donderdag? Ik zei dat net woensdag, maar het is donderdag bij Passaporta dat hij langskomt. Hè. Is het daarover? Je weet het niet.
Ik vermoed het. Hij heeft carte blanche gekregen van de nieuwe Franstalige programmator daar, Stéphane Lambert, die zelf ook schrijver is. Ja, het stel mij voor dat zij wel over Valérie zullen praten, maar hij nodigt ook vrienden uit, zoals de fotografe Marie-Françoise Plissard en verder ook nog scenarist en schrijver Olivier Smolders en Erik de Kuiper.
Die vorige week hier was.
Ja, en die bovendien model heeft gestaan voor een van de stripfiguren uit de Duistere Steden, Constant Abels.
Komt mooi samen.